Rebonjour, chers amis, qui avez préféré écouter une parole de Dieu parce qu'une heure avec Dieu vaut mieux que mille ailleurs. C'est riche. Je vous accueille donc autour de la Bible. Quand je dis la Bible, je veux dire Dieu parlant, Dieu agissant. Nous allons ensemble invoquer le Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, parle, Seigneur, agis. On va se lever à notre place et on va prier quelques instants. Je vais demander à M. Texier de bien vouloir élever son âme pour dire, Seigneur, sans toi on ne peut pas partir, sans toi on n'arrivera pas, sans toi rien ne se fera, mais nous t'attendons. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et à regarder avec moi comment Dieu se présente à nous. Et ce que Dieu a fait, il le fait toujours. Il ne change pas d'avis. Ce n'est pas un Dieu girouette. Il reste toujours fidèle à lui-même. Il n'a pas eu de jeunesse, il n'a pas de vieillesse, c'est toujours le même. Et je voudrais vous montrer comment Dieu s'est présenté. Un homme que nous connaissons tous, c'est Moïse. Et cette histoire est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34 et au verset 1er. Exode, verset 34, chapitre 34, verset 1er. Ça va? Vous avez trouvé? Ou vous écoutez? La parole de Dieu, ça s'écoute aussi. L'Éternel, c'est-à-dire Dieu, dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les deux tables de pierre. Je ne pense pas que c'était des tables qui faisaient 300 kilos chacune. Peut-être grandes comme la table de mon pupitre, il avait ces deux tables dans une main. Donc ce n'était pas certainement des tables démesurées, mais pour écrire cinq paroles là et cinq paroles là. Alors nous continuons au verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. car c'est un peuple au cours raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Une histoire d'écriture sur des tables de pierre. Quand Dieu écrit sur des tables de pierre, c'est pas de l'encre, c'est creusé, gravé, d'une manière indélébile, qui restera pour 10 ans, 20 ans, 10 000 ans, toujours. Vous connaissez certainement des monuments, il y en a ici, pas loin d'ici, un monument aux morts, sur lequel on a gravé. Mais Dieu ne veut pas graver son histoire sur des pierres pour les touristes qui vont aller en Égypte. Il veut graver son histoire, il veut inscrire ses conseils, ses paroles sur une table que vous connaissez bien, c'est la table de notre cœur. Parce que les tables de pierre, c'est vraiment extérieur à notre vie. Mais la table du cœur, c'est le cœur de notre vie. Et Dieu veut qu'au cœur de notre vie, jusque dans nos rêves, jusque dans nos souffrances, jusque dans l'obscurité de notre existence, il y ait quelque chose qui parle de Dieu, pour Dieu. Ce qu'il écrit sur la table de Moïse, de ma vie, de votre vie, ce sont les 10 commandements, c'est-à-dire une histoire qui va nous élever plus haut que la bête, plus haut que la pierre, plus haut que les fleurs. Les 10 commandements, c'est la pensée de Dieu qui descend jusque dans notre cœur pour nous élever. C'est un chemin que Dieu trace pour nous dire, si tu veux la vie, voici le chemin que je te commande. Alors Dieu va appeler Moïse et il va lui demander de tailler ses pierres. Quel travail ! C'est pas de tout repos. Préparer les pierres, ces plaques de pierre plates, je pense, qu'il a prises avec lui. Et Dieu lui a dit, sois prêt de bonne heure le matin. Ça me parle. De bonne heure le matin, ça nous parle pas seulement de ceux qui se lèvent tôt, mais de la jeunesse. Le matin de la vie, c'est quoi ? Le matin de la vie, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est quand on commence, quand on n'a pas encore écrit sur le livre de notre vie. Notre vie, c'est un cahier sur lequel on écrit. Alors, il faut mieux que Dieu soit le premier à écrire. Parce que si on écrit trop vite, on va faire des ratures, des fautes, des tâches. Parfois même, je voulais gommer les tâches et je faisais un trou dans mon cahier. Eh bien, on ne peut pas réparer. Alors, dès le commencement de la vie, Seigneur, écris sur nous ton histoire. Mais votre vie, elle est déjà commencée. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas au matin de la vie. Mais si nous commençons à découvrir Dieu à 40 ans, 80 ans ou plus, ou moins, je pense que Dieu est capable de retracer des lignes droites pour écrire à nouveau quelque chose de beau, d'éternel, de vital. Jusque sur notre lit de mort, si on appelle Dieu, Dieu écrira quelque chose dans son livre là-haut et dans notre livre du cœur en bas pour nous. Sois prêt de bonne heure. Je remercie Dieu d'avoir eu quelqu'un de ma famille qui m'a dit un jour, je t'offre, nous t'offrons une Bible. Je remercie le Seigneur. Cette Bible m'a ouvert les yeux, le cœur, et elle s'est gravée dans mon existence. Dieu précise, tu vas monter de bonheur, mais personne avec toi, personne avec toi. C'est dangereux de monter sur le Sinaï quand on a 80 ans. Moïse a 80 ans. Ce n'est pas un jeune homme. Et il va monter seul, c'est-à-dire sans bagage, sans les choses secondaires, dans le secret. Sinon, en bas, il y a trop de bruit, trop de choses qui nous distraient, qui nous séduisent, qui nous occupent, qui nous dissipent. Parfois, on fait de grandes choses qui sont secondaires. Parfois, on fait de petites choses qui sont importantes. Sur la terre, rien n'est à la bonne mesure. Alors, le Seigneur dit, ferme ta porte. Va au plus profond de toi, au niveau de ta simplicité. Va au niveau de ta fragilité. Vous l'avez déjà fait ? Descendre au fond de votre cœur, réfléchir et être au niveau de l'enfant que vous étiez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Que veux-tu faire de ma vie ? Descends, ou plutôt monte, dit le Seigneur, seul, personne avec toi. Parce qu'un jour, j'espère assez tard, il faudra se présenter tout seul devant Dieu. Il n'y aura pas avec nous les parents, les parrains, des marraines, des amis. Nous rendrons compte, chacun pour soi-même, du bien et du mal que nous avons fait et de la foi et de l'amour que nous avons manifesté. Monte seul. Et Moïse monta avec les deux tables, les deux morceaux de pierre. Donc, pas de bagages, pas de coussin pour dormir, pas de lit pliant, même pas de nourriture. Il est monté sans rien. Devant Dieu, on n'a pas de race, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de mérite, on a juste notre humanité, on a juste sa grâce, sa bonté qui nous appelle. Monte simplement avec comme bagage ton cœur sur lequel je vais écrire. Et pour seule préoccupation, Dieu. Si on essayait aujourd'hui, si on essayait de ne pas penser trop au beau soleil qui se reflète ici quand même, hein, nous envoie des belles lumières. Hein. Dieu est un Dieu de lumière. On est tout extasié devant le feu d'artifice, mais là, regardez, c'est la lumière naturelle. Monte tel que tu es. Et là, dit le Seigneur, je vais écrire les 10 paroles. Il va plutôt les réécrire. Parce que vous savez qu'une première fois, Dieu avait écrit, et quand Moïse a vu les enfants d'Israël qui se vautraient dans le péché devant le vaudeur, tout le monde connaît le vaudeur, Moïse a été pris d'une colère, l'homme le plus doux, le plus patient, le plus magnifique de la terre. Il a cassé les pierres, il les a jetées, il a brisé l'alliance de Dieu. Et Dieu va réécrire. Il n'y a pas d'autre message. Dieu n'a qu'un message. Les choses anciennes sont toujours vraies. Les choses nouvelles sont toujours vraies. C'est Dieu qui écrit, ce n'est pas nous. Nous, on n'invente rien. On n'invente pas le chemin pour aller vers Dieu. Ce n'est pas notre histoire qui peut faire le chemin pour aller vers Dieu. Et Dieu va écrire de son doigt. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne te prosterneras pas devant les images. Honore ton père et ta mère, etc., etc. Vous connaissez les 10 commandements, garde-fous, pour nous préserver, surtout du mal. Vous savez, quand nos parents, quand on est petit, nous disent « Surtout, ne va pas là, ne touche pas à ça, ne joue pas avec le feu. » Nous, on prend ça comme étant fatigant. Et pourtant, c'est pour nous dire, je veux te protéger. Je veux te protéger du mal. Et Dieu, dans les 10 commandements, semble dire à Israël, ne retourne pas dans, le péché de l'Égypte, dans les mensonges de l'Égypte, dans l'idolâtrie de l'Égypte. Et Moïse est sur la montagne. Et Dieu descend. J'aime bien cette parole. Dieu descend. Il descend dans une nuée. Vous savez ce que c'est qu'une nuée ? Un petit nuage. Dieu est dans... Il n'est pas dans les nuages. Mais il descend dans cette nuée, ce nuage, pour nous dire qu'il descend dans la fragilité. Il descend, lui, qui pouvait descendre sur un escalier en pierre, en béton. Il descend sur l'insignifiant, pour se mettre à la portée de tous. Un des premiers hommes, Abel, il s'appelle Abel, et le mot Abel signifie vapeur, souffle, buée, de la buée. Ce n'est pas un nom extraordinaire pour un enfant, hein ? Un enfant qui est bien joufflu, qui se porte bien. On va l'appeler buée, vapeur. Mais Abel, c'était son nom et ça représente notre fragilité. Jésus aussi, il est venu comme une faible plante. On a l'impression que pour que nous puissions bien entendre Dieu, bien le voir, bien l'accueillir, il faut qu'il soit au niveau de notre faiblesse. Il faut qu'il soit fragile comme nous. Il faut qu'il nous ressemble. Il descend donc à notre niveau. Il ne va pas descendre avec tout de suite les premiers commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il va d'abord descendre et il va écrire ce que j'appelle pas un commandement. Je l'appelle une déclaration d'amour. Avant de nous commander quelque chose, Dieu veut nous dire « Je t'ai aimé ». Passé, « Je t'ai aimé ». Je t'aime, je t'aimerai toujours. La première parole des 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Ce n'est pas un commandement, c'est une déclaration d'amour. Tu ne le savais pas quand tu étais dans le pétrin, dans la désolation, quand tu étais abandonné du monde entier, quand tu voyais tes enfants jetés dans la mort. Eh bien, dans ce pays d'Égypte, je suis descendu et je t'ai fait sortir. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de ta voiture qui était accidentée, qui t'a fait sortir de ta dépression, qui t'a fait sortir de ta solitude. Je suis celui qui, depuis ton enfance, t'a pris par la main et t'a aimé. Malgré tes détresses, il a été à côté de toi. Déclaration d'amour. On va bien obéir à Dieu que s'il nous déclare d'abord son amour. Si Dieu se montre comme un gendarme, on va avoir peur de lui. Et beaucoup de gens ont peur de Dieu. Mais si Dieu d'abord nous dit « Je t'ai aimé depuis que tu es dans le sein de ta mère », on va écouter. « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de ta mère, mais aussi de l'Égypte où tu étais en train de mourir. » Déclaration d'amour. Ensuite, Dieu se présente. Comment se présente-t-il ? Quelle est sa carte de visite ? Quel est son site internet ? Comment est Dieu ? Comment il est physiquement ? Comment il se présente à l'homme ? Eh bien, il va se présenter à l'homme d'une façon étonnante. Nous l'avons lu ensemble, au verset 6, je relis, « L'Éternel passe devant Moïse et crie. » Vous avez compris que l'Éternel crie. « L'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui conserve son amour et qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Il se présente avec sa grande préoccupation, sa plus grande préoccupation de toujours. C'est le bonheur de l'être humain. Dieu ne nous parle pas de sa création. Comment il a fait des poissons qui changent de robe en un quart de seconde? Vous le saviez? Vous pouvez nous dire, des poissons sont à pois verts et tout à coup sont à pois rouges, puis avec des carrés, puis avec des rectangles. Dame poisson est étonnante. Hein? Dieu ne nous dit pas quel est l'animal qui court le plus rapide au monde. L'acarien. Vous connaissez les acariens qui sont dans vos tapis, qui vous donnent des allergies, qui sont empoisonnants. Bien, si vous avez un acarien, ce n'est pas la peine de fuir. L'acarien, il court à 2000 km à l'heure. Nous, on pensait au guépard, on pensait au léopard. Mais non, c'est l'acarien qui nous bat. Il ne va pas parler à Moïse de tout ce qu'il fait. Il va seulement dire à Moïse, « Je suis tourné vers vous, Dieu compatissant. » C'est beau. Parce qu'un Dieu qui crée, c'est impressionnant, c'est fantastique, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Moi qui suis peut-être avec un enfant malade, moi qui ai une vie blessée, moi qui suis dans la dépression et la solitude et le découragement, qu'est-ce que m'apportera ce Dieu qui fait des planètes et des fleurs et des escargots? Dieu dit à Moïse, « Je suis l'éternel Dieu compatissant. » Vous savez ce que ça veut dire, compatissant? Ça veut dire « Je souffre avec vous. Je souffre pour vous. Je souffre comme vous. Je vais mieux. Je vais mieux. Je vais mieux parce que moi aussi je souffre et vous aussi vous souffrez. » Puis là, vous avez quelqu'un de très grand qui connaît votre souffrance et qui n'est pas loin de vous. Je suis l'Éternel qui pardonne. Là, ça nous touche de près. Littéralement, mot à mot, qui soulage, qui décharge du mal qu'on a commis, du mal qu'on a subi. Parce qu'il y a les deux. Hein. On fait le mal et on subit le mal. Mais qu'on fasse ou qu'on subisse, on n'est pas bien. Quelqu'un qui pique toujours les autres, il n'est pas bien dans sa tête. Il va devenir fou. Et quelqu'un qui reçoit des coups d'aiguille constamment, c'est quelqu'un de malheureux. Je suis le Seigneur qui te décharge du mal. Parce qu'on ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas de méthode zen pour enlever une faute qui est là, présente dans notre histoire de vie. Regardez comme Dieu s'occupe de nous dans les détails. Dieu ne semble pas sensible, mais écoutez, à nos ordinateurs. Dieu ne dit pas, c'est magnifique vos ordinateurs, mais comment vous faites? Dites-moi, comment vous faites tout ça? Dieu n'est pas tellement sensible aux pyramides. Il ne dit pas, oh, les pyramides, dites donc, comment vous faites? Parce que là, je suis surpris. Dieu ne dit qu'une chose. J'ai mal pour votre mal. J'ai mal parce que dans votre vie, il y a du mal, vous avez du mal. Il s'intéresse vraiment au cœur de notre existence. Et puis il dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. C'est important ça. Dieu ne dit pas de quelqu'un qui fait le mal, oh ben c'est rien, allez, n'en parlons plus. Cet homme qui a écrasé 84 personnes, Dieu ne dit pas, oh ben c'est rien. C'est fini, on n'en parle plus, allez. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Revenons à nous, sans parler des grands criminels, revenons à nous. Chaque fois que nous faisons une faute, il y a des dégâts, il y a des répercussions, il y a des réparations à faire, il y a une souffrance. C'est comme un caillou que je jette dans une mare. Il y a un petit cercle et après un plus grand. Est toujours un plus grand, et ça va jusqu'aux rives de la mare, et un caillou fait des vagues qui durent longtemps, et l'eau reste remuante. Le péché, c'est ça. On commet une faute, et puis ça va à la génération qui suit. deux générations, parfois trois. Donc Dieu dit, le coupable, c'est un coupable. Mais il faut réparer des dégâts. Il faut guérir, il faut pardonner. Le coupable, c'est comme l'enfant prodigue. Bien sûr, on peut le casser en mille morceaux, mais il a besoin de pardon, il a besoin de parole, il a besoin de parents. Pardon, parole, parents. Il faut arrêter l'inflammation du mal dans nos vies. Parlons pas au niveau mondial, dans nos vies. Il punit le péché des pères sur les enfants. Vous avez vu ce qui est écrit? Il punit le péché des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième, quatrième génération. Déjà, ça veut dire que quand on commet une faute, il y a des répercussions. Vous l'avez déjà vu chez les enfants, parfois chez les parents qui pleurent, chez les petits-enfants. Il y a des répercussions. Mais comment, pasteur, dites-vous, il punit? Littéralement, mot à mot, il visite notre péché. Il va le traiter. Comme je vais chez mon médecin pour qu'il traite mon mal de dos, qu'il me visite, qu'il m'ausculte, qu'il me donne une échographie, un scanner, je ne sais pas. Il faut qu'il visite le mal que j'ai dans mon dos pour l'arrêter. Et c'est ce qu'il a fait, mon médecin. Il visite, ce qui veut dire qu'il va traiter le mal, qui peut toucher quatre générations. Ben oui, c'est pas rien le mal. Ça se voit pas, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de couleur, c'est comme l'amour. Hein. Et le mal peut détruire le monde. Alors, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, notamment dans des pays comme l'Afrique ou ailleurs, on vivait proches les uns des autres. Et quand un père faisait une faute grave, les enfants étaient honteux, ses parents étaient honteux, ses grands-parents étaient honteux, ses petits-enfants aussi. Une faute, et ça se reproduit sur les enfants. Nous avons tous entendu parler, il y a 20 ans ou 25 ans, de ce petit Villemain des Vosges qu'on a noyé dans la Vologne. Une histoire de famille épouvantable. Mais qu'est devenue cette famille, Villemain? Rien à voir avec Madame Villemain à côté. Qu'est devenue cette famille? Je connais bien la région là-bas. Tous les enfants sont détruits, les parents sont détruits. Les petits-enfants portent la honte sur eux, tous. Tous sont marqués sur trois, quatre générations. Alors Dieu dit, je vais traiter le mal. Je vais le traiter et nous l'a traité en envoyant Jésus-Christ dans notre monde. Et puis il dit, je suis lent à la colère. Ah, quand je parle de Dieu, souvent les gens me disent, il me renvoie la balle comme au ping-pong, vous savez. Oui, mais enfin, Dieu, c'est un Dieu de colère. Dieu se met en colère. Souvent, des gens très coléreux qui disent ça. Dieu se met en colère. Il est lent à la colère. Oui, Dieu se met en colère. Heureusement, il se met en colère contre la bêtise, le mal, tout ce qui peut nous faire beaucoup souffrir. Il se met en colère, oui. Mais il est lent à la colère avec nous. Il prend du temps, il n'est pas impulsif, emporté. Vous savez, il ressemble au jardinier. Le jardinier, il prend son temps. Il sait que ses carottes ne vont pas pousser, ses tomates ne vont pas pousser en deux secondes. Patience, il ne va pas se mettre en colère parce que ça ne pousse pas tout de suite. Il prend son temps, il est calme, il est patient, le jardinier, mais il sait que ça va pousser. Et je pense que Dieu, c'est comme un parent, c'est comme un jardinier qui prend son temps et qui attend de nous quelque chose, mais qui ne se met pas en colère tout de suite. Vous connaissez la patience de Dieu? 1000 générations. 1000 générations multipliées par 20 ans, etc. 20 000 ans, entre 20 000 et 30 000 ans. Dieu met 30 000 ans à se mettre en colère. Ça vous va? C'est un peu trop rapide pour vous? Il est lent à la colère. Il nous aime à l'extrême. Personne ne pourra nous aimer comme il nous aime. Ni dans le ciel, ni sur la terre. C'est votre plus bel ami, votre plus grand ami, c'est le Seigneur. Alors devant cette déclaration d'amour de Dieu, Moïse s'est mis par terre, il s'est prosterné, il avait 80 ans quand même. Hein. Il était devant Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a entendu cette proclamation, ce cri sur la montagne, le Seigneur, lent à la colère, riche en bonté, etc. Il s'est prosterné et il a fait cette prière. Et je peux vous dire que cette prière, elle est exaucée. On la vit aujourd'hui, je la vis chez moi, vous la vivez certainement, j'espère aussi. Seigneur, dit Moïse, Seigneur, marche au milieu de nous. Reste avec nous. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui souffre avec nous, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui est penché sur nous jour et nuit comme une maman sur le berceau de son enfant malade. Reste avec nous, marche au milieu de nous. Oui, c'est Jésus. Amen. Moïse continue sa prière. Seigneur, ton peuple est un peuple au cou raide. Vous savez ce que ça veut dire, un peuple au cou raide? On ne plie pas. J'ai raison. C'est moi. Orgueilleux. Seigneur, ton peuple est un peu au cou raide. Pardonne ses iniquités et ses péchés. Eh bien, oui, Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, nous n'irons pas loin. Et qui va nous pardonner sinon le Seigneur, sinon Jésus? Moïse dit simplement, viens habiter chez nous et pardonne-nous quand nous allons pécher contre toi ou contre notre prochain. Apprends-nous aussi à pardonner. Et puis, troisième prière de Moïse, prends-nous pour ta possession. C'est beau. Prends-nous pour ta possession. Que nous soyons la propriété de Dieu. Je suis mon maître, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Ça ne va pas loin, ça. Je pense que ce qui va très loin, c'est qu'on soit la propriété de Dieu, le bien de Dieu. Que nous devenions ta possession. Et quand je mourrai, que je parte avec toi, et quand je serai dans le paradis, que tu me ressuscites, et que je sois toujours avec toi, ta possession, ton bien suprême, parce que le plus grand bien de Dieu, je vais vous le dire, quelle est la plus belle réussite, la plus belle histoire, la plus grande souffrance aussi, de Dieu? Ce n'est pas les papillons magnifiques qui durent quelques heures, ce ne sont pas les tortues de mer qui peuvent durer 100 ans ou 200 ans, mieux que nous. La plus belle réussite de Dieu, c'est l'être humain. Tout est pour lui. Tout Dieu est pour lui. Toute la création est pour lui. Tout l'avenir est pour l'être humain. Seigneur, qui sommes-nous? Tu marches au milieu de nous. Tu nous pardonnes. Nous sommes ton bien, ta propriété. Nous sommes ta famille. Amen. Eh bien, voilà comment Dieu se présente. Vous êtes convaincus? Je recommence. Il y a eu deux fois les tables de la loi, deux fois. Je vais recommencer. Hein. Comme Moïse, il a cassé les tables et après il a tout recommencé. Je recommence. On va lire au chapitre 34 de l'Exode. Non, ça va aller. Vous avez compris. Mais je peux vous dire que Dieu répète souvent la même chose. Mes parents m'ont répété des paroles parfois 100 fois, 200 fois. Surtout une parole, touche pas au feu. À l'époque, on avait un feu à bois, à charbon, dans la cuisine. On n'avait que ça. Touche pas au feu, touche pas au feu, touche pas au feu, touche pas au feu. Un jour, ma mère n'était pas là, j'ai touché au feu. Terrible. Alors Dieu ne cesse de nous répéter. Je t'aime d'un amour éternel, je suis avec toi. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu te présentes comme un Dieu Père, un Dieu qui rattrape nos situations complexes, nos échecs, nos manques d'amour, nos épreuves qui détruisent à petit feu l'être humain. Tu te présentes comme le Père de l'humanité, le Père de tous, qui veut avoir avec nous une relation de médecin, de soignant, d'ami, de guide. Tu veux vivre au milieu de nous. Seigneur, nous sommes touchés par ce message. Tu aurais pu nous parler des siècles de tout ce que tu fais, et tu nous as surtout parlé de ce que tu es, amour. Eh bien, répare nos vies, pardonne nos péchés, répare nos inquiétudes, remets-nous en confiance par rapport à toi, pour nos enfants, nos petits-enfants, remets-nous dans la tranquillité, dans la paix, efface toutes les ombres de notre vie, que nous soyons à toi, que nous puissions dire, frères et sœurs, je parle à Dieu, à vous en même temps, le Seigneur est mon berger, je suis sa propriété, il me suit, il me conduit, il me dirige. Merci Seigneur, parce que tu es vraiment avec nous pour toujours. Amen. Amen. Restons un peu dans le recueillement intérieur. Oui, vous avez besoin de cette déclaration d'un père. On a toujours besoin d'un père, d'une mère. Jusqu'à la fin de notre vie, on est capable de crier « Maman ». On a besoin de cet amour protecteur. Dieu est là pour cela. Nous sommes ses enfants, des vrais enfants. Vraiment vrais. Alors, avec moi, apportons au Seigneur, déchargeons dans la prière, déchargeons-nous de nos inquiétudes, de nos peines, de nos souffrances, déchargeons-nous de nos péchés, puisqu'il les pardonne, il les traite et il les pardonne. Déchargeons-nous, allons à lui, en toute assurance, à nos prières, il répondra. Nous allons prier quelques instants pour des frères et sœurs qui se disent devant cette déclaration magnifique, sublime, belle, je t'ouvre ma porte, Seigneur, je t'ouvre ma porte, touche-moi. Simplement, en vous levant à votre place, vous faites signe à Dieu. Et Dieu nous fait signe avec la croix, signe d'amour, signe de la croix. Et nous, nous faisons signe avec un mot, Seigneur, Père. Notre Père qui est aux cieux. Alors si vous souhaitez, si vous désirez, si vous appelez Dieu à votre secours, ce Dieu de bonté qui n'a pas un milligramme de méchanceté en lui, levez-vous à votre place et je prie pour vous de tout mon cœur. J'invoque le Seigneur. Regarde, Seigneur, ses frères et sœurs, ses amis, qui se lèvent, qui sont devant toi comme Moïse sur la montagne, s'était levé de grand matin pour se tenir devant le Seigneur, le grand Seigneur, l'unique Seigneur. Ses amis se lèvent pour te dire, au secours nous souffrons, au secours nous sommes inquiets, au secours nos péchés nous font mal, au secours pour notre vie. Ils se sont levés pour te dire, marche au milieu de nous dans nos maisons, pardonne nos offenses et que nous soyons toujours protégés par toi. Touche-les, remplis-les de joie, de réconfort, de bonheur, de l'assurance du pardon. Reste avec eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. On va écouter, chanter un dernier cantique pour clore cette réunion. Et je vous invite à le chanter avec nous, à vous lever à votre place et à monter encore sur la montagne du Sinaï, à monter vers